ce sujet de l'industrie, et plus précisément d'industrie manufacturière, est redevenu un grand sujet d'actualité, puisqu'on a même un ministère qui s'appelle le redressement productif, et que ça contraste avec ce que je pense beaucoup d'entre nous ont connu, c'est-à-dire le silence parfois même un peu gêné qu'on avait quand on parlait à des interlocuteurs, décideurs, etc., de l'importance de l'industrie manufacturière. Combien de fois je me suis retrouvé comme ça dans des réunions, soit publiques, soit privées, où on me faisait gentiment comprendre que c'était quand même assez ringard de parler de ça, puisque chacun savait que nous étions passés dans une société post-industrielle, une société de services, etc. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est heureux, peut-être grâce à la crise, une prise de conscience quand même large dans ce pays de l'importance de l'industrie manufacturière, en même temps qu'une grande interrogation sur son devenir. Bon, la crise d'abord de 2008-2009 a été extrêmement profonde. D'ailleurs, en France aujourd'hui, les points de crise sont presque exclusivement concentrés sur l'industrie manufacturière. C'est le seul secteur qui est véritablement perdu d'emploi de manière massive, souvent dans des contextes locaux extrêmement difficiles. Mais depuis 2010, au niveau de l'ensemble de l'Europe, en termes de valeur ajoutée, alors en termes d'emploi, il continue à y avoir une certaine érosion, mais en termes de valeur ajoutée et de productivité, l'industrie a plutôt repris du poil de la bête. Ce qui fait que la situation française est peut-être d'autant plus inquiétante, on va dire, que l'érosion notamment de nos positions en matière de compétitivité reste marquée. Et donc c'est un grand souci. Alors une fois que j'ai dit ça, je voudrais tout de suite quand même plaider pour un point de vue, d'adopter une vision large. J'ai parlé de l'industrie manufacturière, mais je pense que c'est vraiment très important de le replacer dans un contexte large, un contexte également international et un contexte qui prenne un peu de recul par rapport aux conjonctures. Je vous propose de refuser deux images un peu symétriques. La première, c'est celle d'une espèce de fatalité, de déclin naturel de l'industrie, hein, qui serait, alors il y aurait un cycle historique, on passe de l'agriculture, et puis après c'est l'industrie, et puis après c'est les services, et l'industrie a naturellement vocation à sinon à disparaître, du moins à devenir un peu résiduel. Et ça, on l'a beaucoup entendu exprimer dans ce discours sur la société post-industrielle, ou que certains de nos économistes patentés et reconnus ont eux-mêmes fortement propagé. Hein. Le petit livre, par exemple, pour être très précis, le petit livre de Daniel Cohen qui s'appelle « Trois leçons sur la société post-industrielle », qui est probablement une des meilleures ventes de la République des idées au Seuil, est quand même extraordinairement discutable de ce point de vue-là, parce que, enfin, quand on le lit, il dit à peu près noir sur blanc qu'effectivement, l'industrie, c'est quand même du passé. Je pense comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours milité contre cette vision et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je pense qu'il y a une position symétrique qui serait un peu la défense du manufacturing comme espèce menacée. Hein, le fait que, on est dans cette situation et donc il faut défendre là quelque chose qui serait de... le monde de l'usine, je dirais, contre le monde des services ou contre le monde du numérique. Et là, je mets des guillemets contre le monde de la finance. Contre le monde de la finance, je crois que oui. Hein. Mais on y reviendra sans doute peut-être dans la discussion. Ce ne sera pas le cœur de mon exposé. Mais ça, l'opposition entre l'industrie et la finance, je crois que malheureusement, elle est assez structurelle. C'est une vieille histoire. Et qui n'est pas nouvelle. Mais en revanche, l'industrie contre les services, l'industrie contre le numérique, ça, je crois qu'il faut absolument s'en défaire. On a bien vu hein, quand, par exemple, la réaction du monde du numérique en France par rapport à un certain nombre de prises de position de Montebourg ou de, des industrialistes, on va dire, a été de dire, et nous, est-ce que c'est... Moi, ma thèse fondamentale, enfin, ce que je vous propose de partager, c'est que tout ça, c'est quand même maintenant de plus en plus la même chose, et que plutôt que d'opposer les choses, il faut regarder le triangle industrie, service, numérique, comme une totalité. Alors, je ne vais pas le développer, mais quand même, industrie-service, un professeur dont j'ai oublié le nom disait le critère est assez simple. Pour savoir si vous avez affaire à un produit de l'industrie ou du service, vous le laissez tomber sur vos pieds. Alors, c'est le genre de choses, de bons mots qui peut paraître profond, mais qui en fait est très superficiel, hein, parce que c'est vrai que les services ne tombent pas sur le pied, mais que cette définition est quand même extrêmement rustique et je pense très, très trompeuse. Hein. De même que moi, je fais partie des gens qui ont définitivement banni de... mon vocabulaire, non seulement mon post-industriel, mais le mot immatériel. Non pas parce que je suis simplement un matérialiste endurci, mais parce que j'ai jamais compris ce que voulait dire immatériel, quoi. À part peut-être la sorcellerie dans le bocage du bas normand, mais il n'y a rien de plus matériel aujourd'hui que le numérique. Il n'y a qu'à voir sa consommation énergétique pour s'en rendre compte. Alors, industrie-service, en trois mots. Pourquoi c'est une opposition qui me paraît vraiment profondément dépassée? D'abord, l'orientation servicielle de l'industrie elle-même. Moi, ça faisait 20 ans déjà que les gens de la sidérurgie m'ont expliqué qu'ils vendaient pas de l'acier, mais qu'ils vendaient des solutions acier. Alors, il y a un part de rhétorique un peu là-dedans. Qu'ils vendaient des solutions acier à des problèmes de leur réel ou supposé d'ailleurs, hein, de leur clients. Deuxièmement, il y a la part absolument considérable des emplois de type serviciel à l'intérieur même du monde manufacturier. J'ai des graphiques, je ne vais pas vous les infliger, qui seraient encore plus importants si on tenait compte de tous les emplois de service qui ont été externalisés et qu'évidemment on ne retrouve plus après dans la distinction entre le manufacturing et les services dans les statistiques officielles. Et puis troisièmement, et c'est le point le plus important, le fait que de plus en plus les produits sont en fait des assemblages de biens et de services et que l'un ne va pas sans l'autre, et là aussi le monde numérique le monte de manière évidente. Bon, j'insiste pas là-dessus, mais on n'en tire jamais vraiment les conclusions. Hein, on dit ça, je pense que ce que je dis là, j'enfonce un peu des portes ouvertes pour vous, mais on n'en tire pas les conclusions et on continue à dire, moi je travaille sur l'industrie, pas les services. Enfin bon, moi je pense qu'il faudrait, tout en reconnaissant que il peut y avoir une certaine spécificité, mais qui est plus historique qu'autre chose, du manufacturing. Sur l'industrie et le numérique, évidemment, on a aujourd'hui du numérique pur, je dirais, avec les grands monstres qui ont émergé au cours des dernières décennies, à peu près exclusivement d'ailleurs aux États-Unis et en Chine. Mais le vrai sujet, c'est quand même la façon dont le numérique investit aujourd'hui tout le reste, quoi, que ce soit les services ou l'industrie manufacturière, avec cette grande question qui est de savoir si Marc Andreessen a raison lorsqu'il dit « le logiciel va manger le monde ». Vous connaissez peut-être cet article. Les progrès de l'algorithmique, sont quand même spectaculaires. Et c'est une grande question quand même aujourd'hui de savoir si le monde manufacturier va devenir complètement software-centrique au même titre que aujourd'hui le monde des services. Ça pose des questions sur l'évolution des qualifications qui sont extrêmement chaudement débattues aujourd'hui aux États-Unis et bizarrement assez peu débattues en France. J'en dirai un mot en conclusion. Donc, moi, je propose qu'on s'épuise pas dans des distinctions industrie-service numérique, mais qu'on regarde ça comme un ensemble. Deuxièmement, je crois qu'il faut aller plus loin, même, et évidemment se rappeler que l'industrie, c'est au-delà même du système de production, c'est une culture, c'est un ensemble de cultures, c'est un imaginaire extrêmement puissant qui a beaucoup marqué nos sociétés, en particulier en France. Enfin, on pourrait parler longuement du saint-simonisme, un imaginaire d'ailleurs qui est beaucoup moins rationaliste que, que ce qu'on dit souvent, hein, le tangente très souvent le religieux. Enfin, vous connaissez les positions de Saint-Simon, enfin, il écrit des textes tout à fait étranges, et ses disciples encore plus. Donc il y a un imaginaire extrêmement puissant de l'industrie, et ça, je pense qu'il faut aussi le prendre en compte. De même, on dit souvent, c'est un peu un lieu commun, de dire que l'industrialisme, au sens de la volonté de l'homme de se rendre maître et possesseur de la nature, hein, et serait une espèce d'expression centrale de l'Occident. Et frappant de voir aujourd'hui comment les historiens non-européocentriques commencent à se développer beaucoup, vous savez, hein, dans l'histoire globale, etc., remettent en question ça, très, très profondément. Je pense à un livre déjà relativement ancien de Jacques Goody, anthropologue britannique bien connu, qui remet en pièce complètement ce que Max Weber avait raconté sur l'exceptionnalisme européen en matière de soit de définition du capitalisme, soit de trajectoire du capitalisme. En fait, toutes les inventions soi-disant occidentales, la comptabilité en partie double, etc., qui avaient été mises en avant comme spécifiques de la voie occidentale, existaient en Inde et en Chine depuis très longtemps. Et donc, il faut, je pense, aussi un peu abandonner cette idée. De même, je pense, mais peut-être rarement, tu en reparleras, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut complètement relativiser la notion de révolution industrielle, parce qu'en réalité, on a des évolutions extrêmement... Alors, je ne suis pas historien, mais enfin, on a des évolutions extrêmement continues, et cette idée qu'il y aurait eu, au XVIIIe siècle, une espèce de moment de rupture avec le coton et la machine à vapeur en Angleterre, et aujourd'hui également extrêmement, extrêmement remise en cause. En fait, il y a une trajectoire continue avec des moments de changement très importants. Et là aussi, le comparatisme, en particulier avec l'Asie, est très intéressant. Il y a ce livre de Kenneth Pomerantz qui a été traduit en français sous le terme « La grande divergence » et qui compare de manière extrêmement précise mais vraiment, c'est hyper technique, hein. La Chine, plus spécialement le bassin de Yangtze et l'Angleterre, et qui arrive à la conclusion, discutée par certains, que dans la divergence qui s'est produite, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, ces deux économies étaient totalement comparables, voire avec un avantage pour la Chine au XVIIIe siècle. Dans la divergence, il explique que finalement, la rupture technologique n'est pas un facteur explicatif central. Alors, c'est discuté par certains, mais ça pose quand même question, et c'est en tout cas des discussions très intéressantes. La chaîne de Ford, de montage des moteurs à l'usine de River Rouge à Detroit. Pour beaucoup de gens, et d'ailleurs les adeptes de la théorie du post-industriel, au fond, la confusion vient de ce qu'ils considèrent que ça, c'est au fond, c'est l'alpha et l'oméga de l'industrie, que c'était ça l'industrie, et que bah, quand on sort de ça, on n'est plus dans l'industrie. Moi, la thèse que je défends, c'est que ce grand moment, la deuxième moitié du 19e à la deuxième moitié du 20e siècle, appelez l'industrie taylorienne, fordienne, etc., appelez-la comme vous voulez, est un moment dans l'histoire générale de l'industrie, avec des continuités très fortes, mais en même temps des ruptures avec ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, on est dans autre chose, qui est toujours de l'industrie. Alors, bon, moi, je propose de l'appeler, mais je ne suis pas très content de ce terme, parce qu'il est moche, et en plus, il est un peu pédant et prétentieux, mais moi, je dis qu'on est dans un monde hyper-industriel. Voilà, c'est-à-dire hyper-industriel au sens où on est... c'est dans la continuité de l'industrie. Par beaucoup d'aspects, ça approfondit les fondamentaux de l'industrie. On est plus dans l'approfondissement de ce que sont les fondamentaux du monde industriel, mais en même temps, on est dans quelque chose de nouveau et qui se cherche et qui n'est pas facile pour cela à cerner. Alors, d'ailleurs, si j'essaie brièvement, mais très très schématiquement, de dire ce que pourraient être un peu ces fondamentaux, j'en ai retenu trois ou quatre. La première, c'est autour de la notion d'accumulation et de mémoire. la mémoire de l'ingéniosité humaine a évidemment existé dans l'artisanat depuis très très longtemps. C'est une mémoire de transmission directe par la main et le cerveau humain. Ce qui apparaît avec la mécanisation et qui est quand même là, je pense, une vraie nouveauté, encore une fois pas spécifique à l'Occident et très ancienne, c'est une mémoire matérielle du monde, une mémoire qui s'inscrit dans la matérialité et la matérialité du monde. Bon, j'ai dit hier soir que j'étais tombé amoureux des usines, je me suis demandé pourquoi, je pensais probablement pour ça, parce que c'est... Quand on y réfléchit un peu, quand on est un peu sensible à ça, il y a dans l'usine, mais on trouve ça aussi dans tous les grands systèmes techniques, une extraordinaire concentration d'intelligence, quoi, hein, alors, qui saute aux yeux. Ça, et de l'intelligence qui arrive à se stabiliser, se sédimenter dans ce que Marx appelait le travail mort, mais c'est un mauvais terme, parce que c'est un travail mort qui reste vivant, quoi, parce qu'il reste au contact des vivants et qu'il est en permanence alimenté par les vivants. Ça a beaucoup changé, puisque aujourd'hui, on est dans le phénomène nouveau, c'est l'intégration de ces systèmes et leur interconnexion à des échelles de plus en plus larges, qui fait que cette mémoire matérielle, elle est de plus en plus impénétrable, labyrinthique et opaque à la compréhension habituelle. Quoi. Ça, je pense que c'est assez nouveau, parce que c'est un ensemble de couches extrêmement sédimentées, qui permet plus de voir au premier coup d'œil cette intelligence accumulée. Hein. Par contre, on s'en rend compte dans les situations de crise, les situations de panne, où alors là, on voit à quel point le labyrinthe, je crois que c'est Latour d'ailleurs qui explique ça aussi, quelque part. Et une des questions, par rapport à ça, moi je pense qu'il y a deux questions d'actualité, c'est qu'est-ce qui va en être de la mémoire du numérique, de l'informatique ? Je pense que ça, c'est très différent, hein. Et d'ailleurs, y compris au point de vue physique, enfin, la durabilité cette mémoire numérique qui devient surabondante, est-ce qu'on va avoir la même chose que ce qu'on a eu dans les systèmes mécaniques ? Est-ce qu'il y aura encore une mémoire ? À mon avis, une question très importante. Et puis aussi, quid de la mémoire humaine ? Parce que cette transmission de savoir... qu'on ne peut qu'admirer, quoi, qui s'est perpétuée d'une certaine façon à travers l'âge de la mécanisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devient dans la mesure où les jobs aujourd'hui sont de moins en moins du type métier, quoi. Bon. Premier point, accumulation mémoire. Deuxième point, absolument, je pense aussi, fait partie des fondamentaux pour moi de l'industrie, des choses de définition, mais encore une fois, dans un sens large du mot industrie, c'est la question de la standardisation et des normes. Alors là aussi, c'est absolument pas nouveau, puisque la première entreprise moderne, je ne sais pas si Armand sera d'accord avec moi, en Occident, qui ressemble un peu à l'industrie d'aujourd'hui, c'est probablement l'Arsenal de Venise, qui a inventé la standardisation de petites séries, quoi, puisqu'ils arrivaient à produire leurs bateaux simplement en ayant normalisé. Vous avez compris que le jeu de Lego, en normalisant ils arrivaient à produire des bateaux beaucoup plus vite que les autres, et ça a été évidemment une des bases, si ce n'est la base principale de la puissance vénitienne. Ils avaient inventé beaucoup d'autres choses à ce moment-là. Et cette standardisation, elle passe par quelque chose qui nous paraît aujourd'hui naturel, mais alors là, je pense que s'il fallait parler de moments de rupture et de révolution, ça c'en est une. C'est le moment où on a commencé à savoir standardiser les pièces dans la grande série, hein, et donc passer au stade de l'interchangeabilité des pièces. Vous savez que pour usiner, par exemple, des fusils, enfin, les armes ont toujours été malheureusement un des fronts pionniers d'avancée de la géniosité humaine industrielle. Longtemps, les armes étaient faites usinées pièce par pièce, quoi. Hein, on assemblait ça comme faisaient des artisans. Et puis il y a un très beau livre sur le système américain des manufactures qui explique comment l'industrie américaine du Massachusetts, par exemple, a décollé le jour où ils ont en s'appuyant sur les techniques d'interchangeabilité qui avaient été mises au point par Gribeauval, qui était un artilleur français, et qui avait mis au point un système de fabrication aussi par pièces interchangeables. Donc ça va de pair avec les progrès de l'usinage, etc. Bon, ce sujet nous paraît derrière nous, mais en fait il est complètement devant nous, puisqu'on voit bien que dans le monde hyper-industriel, cette question des normes, non seulement et de la standardisation, non seulement elle est toujours d'actualité, mais elle est de plus en plus centrale. Dans un monde où la concurrence, j'y reviendrai tout à l'heure, s'organise autour de la création de monopoles sur des niches plus ou moins grosses. Évidemment, la bataille pour les standards, la bataille pour les normes, la bataille pour l'interopérabilité, elle est pas accessoire, elle est au cœur même de la concurrence industrielle. Troisième grand élément, c'est le fait que, à partir du moment où l'industrie s'est mise à mobiliser massivement des gens, et là il y a un tournant historique, évidemment, eh bien, la question de l'industrie est devenue le cœur de la question sociale, et donc au cœur d'immenses expérimentations historiques qui sont à la fois organisationnelles, avec la montée de la grande firme, en parallèle des bureaucraties publiques, mais sur des règles finalement assez parallèles, et aussi bien sûr de la transformation politique du monde. On peut pas séparer ça. Hein. Et au fond, ces batailles-là, elles se sont jouées autour de beaucoup de choses. Mais si on prend le sujet des organisations, avec la montée des grandes firmes, il me semble qu'il y a deux sujets qui sont absolument récurrents, qui sont un peu bateaux, mais basiques, mais autour desquels il y a des formes d'oscillation. Il y a le sujet de la division du travail et de la coopération. Pour faire simple et schématique, on sort justement ça, on sort de l'industrie classique à exacerber le principe de division du travail. C'est-à-dire que toute l'instrumentation traditionnelle s'est faite autour de la question de la division du travail, comment on découpe le travail, comment on le rend le plus d'ailleurs standardisable possible. Bon, c'est une version un peu schématique, mais quand même fondamentalement ça, en laissant en creux complètement le sujet de la coopération, ou en le renvoyant simplement à la hiérarchie, en disant bah finalement c'est coopération, c'est soit la mécanique ici qui l'organise, hein, puisque là c'est l'exemple type où c'est le flux qui oblige à la coopération, ou alors c'est les chefs et les petits chefs qui vont organiser le travail. Je pense que ce qui caractérise le monde hyper-industriel, c'est qu'on se rend compte que ça marche plus comme ça, et que c'est le sujet de la coopération, c'est-à-dire comment les gens arrivent à travailler ensemble, qui devient le sujet majeur. À ceci près qu'il n'est pas instrumenté dans les outils de gestion des entreprises, puisque d'un côté on a une instrumentation qui a pris un peu de plomb dans l'aile, mais qui est quand même extrêmement forte, et d'autre côté on fonctionne plutôt par mot d'ordre, par coopérer, communiquer, vivre le travail en équipe, etc. Sauf que on sait ni le mesurer ni l'évaluer, et encore moins le récompenser quand ça marche, et que d'ailleurs beaucoup de choses font que ça marche pas très bien. Et derrière ça, il y a quelque chose, je pense, d'assez profond, c'est que la performance elle-même, aujourd'hui, elle dépend fondamentalement du type de relation, de coopération, de la densité relationnelle qui peut s'établir entre tout un ensemble d'acteurs, que ce soit les acteurs d'ailleurs à l'intérieur de la firme, ou les acteurs qui sont dans la firme et dans son environnement. Commencer par les clients, les usagers, bien sûr, les partenaires, les stakeholders, tout ce que vous voudrez. Bon, avec Philippe Zarifian, il y a déjà pas mal de temps, on avait résumé ça en un slogan qui était de dire: on passe d'un monde dominé par la productivité des opérations, avec deux mots qui ont été clés mais qui ont un peu perdu de leur sens, à l'efficience par la relation. Et en fait, ce sont deux mondes assez relativement orthogonaux, hein, parce que ça se mesure pas du tout de la même façon. Et qu'en particulier, les mesures par le temps, qui ont été quand même la grande construction. Le temps comme équivalent général, un peu comme monnaie, qu'on retrouve aussi bien chez Marx, chez Taylor, chez Smith déjà, finalement quelque chose qui marche plus. Hein, parce que c'est pas la mesure du temps passé qui va faire qu'un processus de conception d'une bagnole ou d'autre chose fonctionne. Hein, c'est la façon dont les acteurs vont travailler ensemble. C'est pas l'addition des temps ou la mesure des temps qui va expliquer pourquoi on arrive à fiabiliser un haut fourneau ou pas. C'est la façon dont les acteurs sont capables de se parler autour et à travers ce système technique, etc. Donc ça, je pense, là, il y a un basculement qui est très profond et qui met en porte-à-faux les systèmes classiques de gestion des entreprises. Voilà. Alors, dernier point, je pense que l'idée d'assimiler l'industrie à la grande organisation fait partie de ces choses qui également méritent d'être revisitées, parce que ça aussi, je pense, c'est un moment, quoi, la grande organisation. Et moi, ce que je trouve très fascinant dans le moment actuel, c'est que tout en restant dans le monde que j'appelle hyper-industriel, on voit à l'œuvre des processus de désintermédiation, pas au sens financier, mais de désintermédiation organisationnelle extrêmement, extrêmement puissant et très varié. Je ne sais plus qui a dit, je ne vais pas retrouver l'auteur de cette phrase, mais je trouve qu'elle est très profonde. Il a dit la force de l'industrie, mais de l'industrie au sens un peu historique, là, de ce moment particulier, ça a été de faire des choses extraordinaires avec des hommes ordinaires. Hein, c'est vrai que vous voyez comment la puissance américaine s'est construite avec des gens qui n'avaient aucune tradition industrielle, quand même, très peu, sans arriver d'Europe de l'Est ou d'ailleurs. Et que avec ces hommes totalement ordinaires, on a construit des choses extraordinaires. Comment ? Bah, par la médiation de la grande organisation, d'où la fascination pour cette grande organisation. Aujourd'hui, on arrive à un moment où les grandes organisations ont du mal à construire des choses extraordinaires parce qu'elles sont noyées dans leur propre entropie, mais où on arrive à faire des choses extraordinaires sans la médiation de la grande organisation. Bon, je ne vais pas vous refaire le discours sur... Linus Torvald et la création de Linux par des armées de développeurs, en fait c'est très organisé comme processus, mais on voit aujourd'hui beaucoup de, la puissance du numérique, c'est quand même aujourd'hui d'être capable de proposer progressivement des formes de production de choses très très puissantes sans passer par la médiation de la grande organisation. Alors ça peut être la grande organisation mise en réseau, désagrégée, désintégrée même pour certains, avec tout le revers de la médaille que ça représente. Mais ça peut être aussi des formes complètement nouvelles. On voit aujourd'hui des formes coopératives qui renaissent. Il y a beaucoup de... Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est à surveiller de près. C'est pas du tout contradictoire avec l'industrialisation. Et comme j'ai dit, comme toujours... le côté fascinant et positif, mais en même temps, les risques considérables, hein, puisque ça va de pair avec la disparition des filets de sécurité qui ont été patiemment, progressivement et parfois durement conquis et construits. Hein. Quand on parle du cloud humain aujourd'hui, l'entreprise, on a le cloud des ressources informatiques, on peut avoir accès au cloud humain. On voit que c'est à la fois fascinant, que ça ouvre des perspectives formidables, mais en même temps, c'est aussi, ça détruit beaucoup de choses. Et une partie de nos concitoyens se retrouvent bien dans ce monde où il faut naviguer dans le cloud humain. D'autres, pour la plupart, je crois que c'est malheureusement très insécurisant. Voilà. Fin de ma première partie. Je vais maintenant, pour terminer, donner quelques éléments un peu plus factuels. Premier élément factuel, ce que j'ai appelé l'industrialisation du monde versus la mondialisation de l'industrie. Alors, c'est pas pour faire un jeu de mots facile, mais l'industrialisation du monde, c'est d'abord ce grand rééquilibrage. C'est un photographe canadien qui s'appelle Bertinsky. Qui a fait des photos absolument extraordinaires sur pas mal de sujets. Il a d'ailleurs fait un film qui s'appelle Manufacturing aussi, qui a pas rempli les... Il est passé un moment à l'espace Saint-Michel, mais il fallait vraiment se précipiter pour le voir. C'est des photos posées. Hein. Il fait poser, en fait, en Chine, c'est des photos posées. Le grand rattrapage, c'est le rééquilibrage, en fait, du monde entre l'Est et l'Ouest. Hein. La question de l'Afrique est une question qui très importante, mais... qui, à mon avis, va se poser plus fortement dans les décennies qui viennent. Bon, vous savez tous la réémergence absolument fascinante de la Chine, mais aussi de l'Asie du du Sud dans le concert industriel mondial. Sur la longue période, évidemment, productivité industrielle a augmenté beaucoup plus vite que le reste, donc c'est pour ça que ça tire le reste. Mais alors, jusqu'au 19e siècle, le niveau technologique de l'Asie et de la Chine en particulier était largement comparable, si ce n'est supérieur à celui de l'Europe. C'était en gros proportionnel aux populations, quoi. Et puis on a eu ce basculement incroyable, mais qui est en train d'être comblé. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça s'accélère sur la période récente. Alors, bon, fondamentalement, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le monde s'industrialise, que le recul en moyenne des pays industrialisés, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas du tout manifeste, que globalement, les pays industrialisés ont maintenu leur position dans les échanges internationaux, d'où peut-être l'interrogation sur la situation française qui est un peu problématique à cet égard, parce qu'on a plus reculé que d'autres et pas seulement que les Allemands, que les échanges internationaux aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, sont pas des échanges nord-sud essentiellement sur les produits à haute intensité en travail. On a bien sûr ces phénomènes, enfin, on parlait avec Armand l'autre jour, Rana Plaza, ça existe et ça pose un problème absolument massif, quoi, cette exploitation aujourd'hui qui n'a rien à envier à ce qui s'est passé de pire dans les premières phases de l'industrialisation en Europe, des populations les plus pauvres et les plus exploitées d'une partie de ce qu'on appelait encore il n'y a pas longtemps le tiers-monde. C'est une réalité très forte, mais elle est quand même limitée à certains secteurs. Et les échanges internationaux aujourd'hui, les échanges de produits à haute valeur ajoutée, de produits dits high-tech, croissent 30% plus vite que la moyenne des échanges. C'est-à-dire que ce qui se développe, c'est pas l'échange inégal, les cerveaux en Europe ou en Amérique, et puis les bagnes industrielles au Bangladesh. Même si ça existe et que c'est un sujet majeur, ce qui se développe, en fait, c'est des échanges de plus en plus horizontaux dans lesquels les pays émergents et la Chine commencent à prendre une part très importante. Et vous avez peut-être vu les dernières études aussi du BCG là-dessus, qui montrent que maintenant, en faisant bien les comptes, le rattrapage des salaires chinois par rapport aux salaires européens, quand on prend en compte l'ensemble des facteurs, est tel que l'avantage concurrentiel salaire de la Chine est en train de s'estomper fortement. Par contre, il reste un avantage concurrentiel absolument majeur qui est celui de, on va dire, du droit du travail, en particulier de la réactivité. Hein. Pourquoi Apple localise sa production en Chine ? C'est pas tellement pour gagner sur les prix, c'est essentiellement pour des raisons de réactivité, de capacité, de flexibilité aussi. Quand il faut livrer très vite, il faut livrer avec des pointes. Évidemment, Foxconn et Shenzhen sont imbattables par rapport à nos systèmes qui sont beaucoup plus figés. Tout ça va de pair, évidemment, avec l'urbanisation et la montée d'une classe moyenne extrêmement nombreuse en Asie, où pour la première fois, évidemment, les classes moyennes asiatiques et d'ailleurs des pays émergents de manière générale sont plus nombreuses, nettement plus nombreuses que les classes moyennes de nos pays développés. Alors le deuxième aspect, c'est, donc j'ai dit au fond industrialisation du monde et une répartition beaucoup plus homogène, mais qui est fondamentalement positive, je pense, y compris pour l'économie, l'équilibre macroéconomique du monde. Deuxième aspect, c'est l'industrie qui se mondialise avec l'émergence de, je crois que c'est le livre de Susan Berger qui s'appelle Made in Mond, hein, donc de plus en plus de produits qui se font sur des circuits de production extrêmement fragmentés. Bon, ça c'est un petit exemple amusant que j'utilise depuis un certain temps. Donc c'est une brosse à dents électrique qui est assez chère et donc plutôt pour les marchés californiens. Et vous voyez le nombre d'étapes de production qui sont réparties sur l'ensemble de la planète, avec ça pose évidemment aussi le problème du circuit physique de ces composants, qui n'est pas un problème majeur parce qu'ils circulent soit en bateau, coûtent pas très cher, et consomment pas beaucoup de carbone, ou dans les grands trains qui traversent les États-Unis et qui sont également relativement écologiques. Évidemment, cette fragmentation fait que les statistiques deviennent très très difficiles à lire et qu'on manque terriblement d'une comptabilité des échanges qui soit plus en valeur brute, puisque la part de contenu en importation, des exportations, etc., donc, ne cesse d'augmenter, et donc il faut avoir une comptabilité en valeur ajoutée. Alors maintenant, l'OMC a développé une base de données de comptabilité en valeur ajoutée qui permet de voir les choses de manière quand même plus réaliste. Alors, les échanges intra-industriels, et on pourrait même dire intra-firmes, hein, c'est plus difficile à saisir, deviennent importants avec une forme de re-régionalisation du monde, c'est-à-dire en particulier les échanges intra-firmes, mais dans la zone asiatique, qui était très extravertie, sont en train de se développer. Donc on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a ceux qui disent on sort de la grande globalisation parce que c'est plutôt des grandes économies régionales qui échangent entre elles. Mais on peut voir aussi quand même que les échanges interzones restent très très importants. Un économiste qui a beaucoup écrit là-dessus des papiers très intéressants, ben c'est de là que c'est tiré d'ailleurs, c'est Richard Baldwin qui utilise le terme les termes qui me paraissent assez bien vus de dégroupage. En anglais il dit unbundling, bon, dégroupage, il dit on est dans un second dégroupage. Il y a eu un premier dégroupage où au fond on avait une dissociation entre les lieux de production, les lieux de consommation, et puis des divisions internationales de travail sur la base de grands blocs. Puis aujourd'hui, on est dans un deuxième dégroupage, un dégroupage beaucoup plus fin. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, à la tâche, il appelle ça aussi la mondialisation à haute résolution, la mondialisation à grain fin. Évidemment, change profondément la donne et rend très difficile les raisonnements macroéconomiques fondés sur les chiffres bruts du commerce extérieur. Alors, un exemple qui a été beaucoup documenté, c'est parce que ça passionne notamment les Américains, c'est le cas d'Apple. Hein, où il y a des chercheurs qui ont reconstitué vraiment de manière assez précise les circuits de production d'Apple. Vous savez que c'est pas un hasard aujourd'hui si le successeur de Steve Jobs est un logisticien, hein, parce que évidemment la logistique, comme chez Apple, comme dans beaucoup de ces industries made in monde, devient un facteur absolument central. Logistique d'ailleurs très couplé aussi au système d'information. Il faut faire marcher ce réseau, parce que ça va quand même pas de soi. Donc il y a cette question de morale, quoi, sur qu'est-ce que veut dire cette production très externalisée avec des grands fabricants assembleurs comme Foxconn, que bon, les Français moyens ne connaissent pas, mais qui est quand même aujourd'hui la première entreprise mondiale en termes d'effectifs. Les emplois qui sont restés aux États-Unis sont en minorité, sont quand même importants, des emplois essentiellement de conception, l'amont et l'aval. La Chine, c'est 50% des emplois non américains, mais quand vous regardez les salaires distribués, hein, vous voyez que les salaires distribués restent très massivement en faveur des États-Unis, et que la Chine, d'ailleurs, l'assemblage en Chine là-dedans représente très très peu de choses. Très très peu de choses, c'est ça qui est assez fascinant, malgré la montée relative des salaires chinois. Et donc, évidemment, ça plaide pour une... Si on regarde les profits, c'est plus difficile à saisir, mais la part des profits rapatriés aux États-Unis également est totalement massive, même s'ils sont souvent masqués par la délocalisation des profits dans les paradis fiscaux. C'est un sujet sur lequel je reviendrai à la fin. Donc voilà. Alors, bon, tout ça s'organise en général autour de... ces systèmes logistiques s'organisent autour de hubs. On a une montée générale de la notion de hub, hein, que vous connaissez par l'aérien, la poste, etc., mais qui devient aussi un élément majeur de l'industrie mondialisée. Cette logique, elle est profondément liée à cette mondialisation. Les 9/10 des fleurs coupées que vous pouvez acheter à Paris ou probablement à Caen ou à Saint-Lô, sont passés par ce grand marché quotidien, l'un des deux grands marchés amsterdamois. Alors là, avec des problèmes quand même de logistique, parce qu'après, le dernier kilomètre en camion pose problème. Voilà. On dit toujours l'Allemagne, la machine exportatrice, mais elle exporte aujourd'hui principalement en Europe, dans ses pays voisins, et en particulier en France. Et d'ailleurs, les contenus en importation des exportations allemandes aussi, contrairement à une légende, évidemment, il y a une part importante des pays de l'Est, puisque l'Allemagne s'est beaucoup appuyée des ex-pays de l'Est, par exemple dans l'automobile. Mais il y a aussi un contenu en importation important de biens qui viennent de France, d'Italie, voilà, du reste de l'Europe. La projection, c'est quand même que la Chine va prendre la place principale. Cette nouvelle donne, à la fois d'industrialisation plus répartie du monde et de mondialisation des industries. Elle crée une géoéconomie globale extrêmement différente de celle qu'on a connue. On sort d'un monde où il y avait des grandes inégalités entre des grandes régions du monde. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part, vous savez tout de suite si vous êtes en monde industriel, entre guillemets, ou pas. Aujourd'hui, ces grandes différences, c'est d'ailleurs un peu la même chose que ce qui se passe si on regarde les inégalités régionales en France. C'est fascinant de voir qu'on a le même genre de pattern. Les grandes inégalités entre grands blocs ont tendance à disparaître, en moyenne. Elles vont continuer à... La Chine va rattraper, elle a déjà largement fait. Voilà. Et donc on va voir, bon, avec des zones... aujourd'hui, en grande partie exclue, je pense notamment à l'Afrique, à certaines régions. Mais quand même. En revanche, on a aujourd'hui des patterns d'inégalité internes à ces différentes zones qui sont considérables. Dans les pays émergents, on a aujourd'hui des réseaux de sites productifs qui sont aussi modernes, parfois à cause de l'effet saut de mouton, que c'est plus récent, donc c'est plus moderne. Que ce qu'on a dans les pays développés. Et ces unités, justement, c'est pas le Rana Plaza, c'est des unités qui sont complètement intégrées, de plus en plus intégrées. Le terrain de jeu, donc, du coup, de ces gens qui organisent ces réseaux de production à l'échelle mondiale, il est aujourd'hui relativement indifférent, en fait, dans les pays développés ou dans des pays en développement. Deuxièmement, cette homogénéisation, différenciation très différente de celle qu'on a connue, avec donc en même temps des situations de contraste et de rupture interne au pays considérables, entre l'ancien et le neuf. Ce qui est vrai pour l'espace l'est aussi pour le temps. C'est une remarque extrêmement banale, mais finalement on ne fait pas si souvent, c'est que ce qui caractérise aussi cette nouvelle donne, c'est le synchronisme, et en particulier le synchronisme technologique. Souvenez-vous du temps qu'il a fallu pour introduire la soie européenne en Occident. La porcelaine, on n'y est jamais arrivé. Il a fallu la réinventer en Saxe au XVIIIe siècle. Dans les années, il n'y a pas très longtemps, moi, quand je faisais mes premiers cours, on enseignait encore la théorie du cycle international du produit, de fameux article de Vernon qui est de... Plus la date, mais c'est pas. C'est, vous savez, le cycle international du produit, c'était cette idée que le monde est un oignon. Il y a au cœur le pays développé, qui s'appelle à l'époque les États-Unis, où apparaissent à la fois les nouveaux produits, les nouveaux process, les nouveaux clients. Et puis, dans un deuxième temps, quand c'est bien stabilisé, rationalisé dans le pays cœur, on passe à une deuxième couche qui à l'époque s'appelle l'Europe. On importe avec 5, 6, voire 10 ans de décalage. Et c'est vrai que si on reprend les 30 Glorieuses, par exemple, on a un décalage. Les courbes d'adoption des nouveaux produits aux États-Unis et celles de l'Europe sont très proches, mais elles sont décalées d'une dizaine d'années. Et puis là, après, on passe au reste du monde tranquillement, enfin, avec son rythme. Ça, c'est devenu totalement obsolète. Puisqu'aujourd'hui, les courbes d'adoption, elles sont les mêmes dans différents pays, et souvent, elles sont plus rapides pour certains produits dans des pays considérés comme étant en retard par rapport à d'autres. Donc c'est un changement majeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de protection par la géographie, et que donc, il faut inventer d'autres protections dans cette nouvelle forme de... Alors, d'où la montée, évidemment, de la propriété intellectuelle comme façon de protéger, puisque toute innovation est immédiatement copiée, et la montée d'un thème... qui est aujourd'hui un mot qui était relativement nouveau, enfin qu'on n'utilisait pas quand, avec Armand, on faisait nos premiers cours sur ces sujets-là, qui est le sujet de la scalabilité. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, passer très vite, changer d'échelle rapidement. Même pour les start-up, le sujet aujourd'hui, c'est la scalabilité. Faites une start-up purement locale, vous êtes mort parce que vous allez être immédiatement copié ailleurs. Donc le vrai sujet, c'est comment très vite je passe de l'échelle locale à l'échelle globale. Très très grand sujet qui change radicalement quand même la donne. Alors, c'est plus facile dans le numérique, c'est très très compliqué dans les secteurs non numériques. Voilà. Troisièmement, ça produit une concurrence exacerbée par une espèce de course-poursuite un peu folle et auto-entretenue vers l'innovation. Et en même temps qu'on est dans un processus d'automatisation quand même croissante de la phase de production, usine, alors que, bon, on voit bien le déplacement des emplois soit vers l'amont, soit vers l'aval du système de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers un monde qui est dominé non plus par les coûts variables, mais par les coûts fixes, et en particulier les coûts fixes anticipés. C'est un peu abstrait ce que je dis là, mais ça veut dire en clair que quand vous mettez en place un nouveau produit, un nouveau processus de production, l'argent, vous allez surtout le dépenser avant pour mettre en place soit des nouvelles plateformes de production, des grandes infrastructures, des systèmes logistiques. Vous allez dépenser énormément d'argent dans la conception. Et puis, les coûts variables en production, ben, ils vont devenir relativement, pas secondaires, mais relativement secondaires. Regardez le coût de production d'assemblage d'usine que de la Chine tout à l'heure sur l'exemple d'Apple. Et donc ça se traduit par une transformation, c'est un point un peu macroéconomique que j'ai pas le temps de développer, mais une transformation profonde dans la modalité de la concurrence. C'est là que l'Europe, et nous compris, on marche sur la tête parce qu'on s'obstine à vouloir rester dans le monde de la concurrence classique, de type commercial, etc., alors qu'on est rentré dans un monde de concurrence type monopolistique, puisque les gagnants, ce sont les gens qui arrivent à créer vite des monopoles, et des monopoles de plus en plus sur des niches. Alors ça peut être des niches de plus en plus grosses, mais c'est quand même une concurrence fondamentalement qui se traduit par la lutte au couteau pour créer des monopoles. On a vu, alors quand c'est appuyé sur des externalités de réseau très très fortes, comme celles qui existent dans le monde numérique, bah, ça produit en un rien de temps ces géants qui s'appellent Amazon, etc. Enfin les sept grands serveurs là, qui dominent aujourd'hui le monde numérique et de plus en plus le monde manufacturier, avec des montées en puissance extraordinaires, parce qu'on est typiquement dans cette concurrence par la création de monopoles sur des niches qui ont tendance à s'agrandir et qui plus du tout dans nos schémas mentaux de régulation de la concurrence comme essaie de faire désespérément la Commission européenne. Et c'est quelque chose qu'on va voir dans d'autres secteurs. Je pense à l'éducation, par exemple. L'éducation, aujourd'hui, c'est un monde de coûts fixes assez faibles, mais de coûts variables élevés. Et on est en train de passer vers l'inverse. Et c'est ça, à mon avis, tout l'enjeu des fameuses MOOC, là, hein, des open course, etc. C'est qu'on va passer vers un monde où il y aura les gagnants vont être ceux qui vont être capables d'investir sur des grandes infrastructures, hein, avec des coûts fixes extrêmement élevés, et réduire drastiquement les coûts variables, puisque le coût du prof de Stanford qui va diffuser son savoir au reste du monde va être quand même absolument microscopique dans l'ensemble. Tout ça, enfin, alors bon, certains vont plus loin que moi. Rifkin, par exemple, il explique que on va vers le zéro coût variable, le coût marginal nul, et donc c'est la fin du capitalisme. Je crois qu'on n'en est pas là. Bon, tout ça est extrêmement... Dernier point, ou peut-être avant-dernier point, extrêmement polarisé aussi, géographiquement et économiquement et socialement, surtout quand, comme j'ai dit, des externalités fortes. Donc on est un monde où la notion de winner take all, c'est-à-dire c'est le gagnant, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure sur une compétition basée sur des monopoles. Alors le gagnant a tendance à empocher toute la mise. Hein. C'est-à-dire que c'est l'économie du football, c'est l'économie du star system qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre dans énormément de domaines, qui fait qu'on n'est plus du tout dans un monde gaussien, hein, de moyenne, mais dans un monde où les réseaux sont de plus en plus polarisés autour des seuls gagnants. Alors après, ça devient difficile de déplacer les choses, mais ça se fait quand même, et ça se fait dans la douleur. Je termine par tout ça, évidemment, change complètement les enjeux des politiques publiques. Que le problème pour un pays n'est plus de garder la... Ça, on pourrait en parler dans le cas de la France, hein, c'est un sujet de forte actualité. Le problème n'est plus de garder la totalité d'un secteur sur son territoire, mais évidemment de fixer les activités qui sont stratégiques en termes de chaîne de valeur globale. Tout le problème est de savoir qu'est-ce qui est stratégique et qu'est-ce qui n'est pas, parce que c'est pas une définition naturelle. Hein. C'est pas forcément évident de considérer, de voir ce qui est stratégique. Et beaucoup de gens aujourd'hui pensent, à juste titre, que le manufacturing peut faire partie du stratégique. Hein, c'est tout le. J'avais invité Suzanne Berger à venir présenter ici le résultat du travail du MIT qui a été publié sous le titre de Making in America. Il y avait eu un premier rapport qui s'appelait Made in America, qui était comment on se positionne par rapport à la concurrence japonaise, principalement à l'époque, en termes de productivité. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour garder du manufacturing aux États-Unis. Et la conclusion forte, c'est qu'il y a quand même un intérêt stratégique à garder du manufacturing, au moins une partie, peut-être pas la totalité, mais au moins une partie, à proximité directe des centres de conception, parce que sinon les centres de conception finissent par tourner à vide. Ça peut se discuter, hein, le modèle Apple, c'est pas tellement ça. Hein. Bon, c'est un grand sujet. Qu'est-ce qui est stratégique? Est-ce que le manufacturing fait partie, le design en fait partie à l'évidence? Le manufacturing, c'est une question qui peut se poser, qui doit se poser de manière, je pense, pragmatique. Deuxièmement, le sujet, contrairement à ce qu'on entend dire sans arrêt, c'est pas évidemment de fixer et de se spécialiser dans les activités non délocalisables. Parce qu'en moyenne, les activités non délocalisables sont des activités à relative faible productivité. Et quand on n'a plus d'activités à forte productivité, ben c'est la richesse distribuée qui finit par... Donc le vrai sujet, c'est de fixer des activités délocalisables. Bon, Pierre-Noël Giraud a développé, je pense qu'il sera là en fin de semaine, hein, a développé un petit modèle sur les sédentaires et les nomades, qui est quand même, je trouve, très intéressant, qui dit, au fond, le vrai sujet, c'est de fixer les nomades. Mais ce qui est problématique, parce que ça conduit les États à des politiques que lui-même, d'ailleurs, qualifie de néo-mercantilistes. C'est-à-dire, il faut, c'est plus thésauriser le stock d'or, c'est thésauriser les capitaux, les capitaux considérés comme nomades, et surtout les gens. Hein, parce que, autre grand sujet que j'ai pas eu le temps d'aborder, la mobilité des gens dans tout ça est absolument majeure, au moins autant que la mobilité des capitaux. Alors, il y a énormément de sujets et de questions ouvertes que j'ai pas abordées, mais que je pense qu'on abordera. Il y a la question de l'entreprise, il y a la question de l'emploi et des qualifications. En un mot, c'est un débat qui est très fort aujourd'hui aux États-Unis, qu'on a peu chez nous. C'est est-ce qu'on va, mais quand même les statistiques sont assez inquiétantes, est-ce qu'on va vers un... On voit que les emplois qui restent et qui se développent sont des emplois soit très qualifiés, soit très peu qualifiés, mais qu'il y a un creux considérable qui était celui des emplois moyens sur lesquels reposait l'industrie classique, quoi. Il y a la question de ce que certains ont appelé la nouvelle révolution industrielle, la XIème, là, avec la production distribuée, le mouvement des makers, la miniaturisation possible de la production, la longue traîne qu'on a connue du côté de la demande, est-ce qu'elle est applicable à l'offre, au fond, est-ce qu'on peut avoir une industrie redistribuée, reterritorialisée, c'est une question quand même très très intéressante. Il y a la question majeure, évidemment, des fonctionnalités, de la gestion des ressources, de l'écologie, de la transition énergétique, est-ce que ça réinvente vraiment une nouvelle industrie, je pense qu'on en parlera notamment cet après-midi. Les deux autres grands sujets qui mériteraient en soi de longs développements, qui est la finance. Hein, bon, quand on voit la part de la valeur ajoutée que prend aujourd'hui la finance, qui est sans rapport. Il y a un très bon papier de Philippon récent qui montre que la finance aujourd'hui, bien qu'elle prenne une part de plus en plus considérable du PIB, sans parler des salaires, n'est pas plus efficace qu'elle l'était en 1910. En termes de coûts unitaires de l'intermédiation financière. Donc là, il y a une captation de valeur que je pense qui est de type prédateur, hein, et qui est quand même profondément problématique. Je pense que les industriels, d'ailleurs, qui viendront... et puis ça, c'est lié aussi au modèle de l'entreprise, modèle aujourd'hui axé sur la financiarisation, la valeur pour l'actionnaire, etc. Et puis la question du rôle des États, le fait que les grandes entreprises ne payent plus d'impôts... Google paye 3% d'impôts, je crois, au total. Les grandes entreprises françaises du CAC 40 payent 6% d'impôts en moyenne. Et donc, il y a une forme de... Moi, j'utilise le terme de sécession civique, quelque part, qui est quand même extrêmement problématique, puisqu'ils arrivent à s'engouffrer grâce au numérique et à beaucoup d'autres choses, à jouer avec cette diversité du monde et les failles, et notamment le grand système des ce qu'on appelle l'optimisation fiscale et les paradis fiscaux pour se dissocier de leur devoir civique vis-à-vis des États et de leurs compatriotes, et puis plus généralement la montée d'une forme prédatrice dans cette économie. Voilà, j'étais beaucoup trop long et je vous prie et donc je vous propose d'ouvrir la discussion.